Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 21 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Versailles. Dans cet épisode, j'aborde la crise chez les responsables de la cybersécurité. Ensuite, nous verrons l'exploration du réseau Tor, anonymat et confidentialité en ligne, Microsoft qui piège des cybercriminels avec de faux environnements, et enfin, des pirates qui exploitent une faille d'un Roundcube pour voler des identifiants. Hacker News remonte qu'une vulnérabilité critique est exploitée dans le logiciel de messagerie web open source Roundcube. Ce cas illustre comment des attaquants ont utilisé une faille XSS, donc du cross-site scripting, pour voler des identifiants de connexion. En juin 2024, une organisation gouvernementale située dans un des États membres de la communauté des États indépendants, ce qu'on appelle la CEI, a reçu un email suspect. Pour rappel, chères auditrices et chers auditeurs, la CEI, ou la communauté des États indépendants, c'est une organisation régionale composée de plusieurs anciennes républiques soviétiques, créée après la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Son principal objectif est de faciliter la coopération entre ses États membres dans divers domaines, tels que l'économie, la politique et la sécurité. La CEI comprend des pays comme la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, mais ainsi que l'Ukraine, qui a cessé de participer activement ainsi que d'autres nations d'Eurasie. Donc on est entre potes qui ne feront jamais d'attaques, d'espionnage, hein, on est entre gens de confiance. C'est pour ça que ça fait un peu sourire. Mais dans cet email sans texte qui est apparemment envoyé avec un document pièce jointe, dissimule en réalité une attaque hyper sophistiquée, mais assez simple quelque part pour nous experts en cybersécurité. L'analyse réalisée par l'entreprise de cybersécurité russe Positive Technology a révélé que le corps du message contenait du code JavaScript caché exécuté via des balises SVG et utilisant la faille référencée sous la CVE 2024-37383. Ce type de vulnérabilité XSS permet à un attaquant de charger du code malveillant dans le navigateur de la victime, simplement en ouvrant un email spécialement conçu. Cette faille présente dans Roundcube jusqu'aux versions 1.5.7 et 1.6.7 a été exploitée par les cybercriminels pour afficher un faux formulaire de connexion amenant les victimes à entrer leurs identifiants. Une fois collectées, ces informations sensibles incluent les identifiants de messagerie qui a été envoyé à un serveur distant, un C2, dissimulé derrière un clou de fer. Mais des groupes comme APT28, Winter Vivern et Tac70 ont déjà exploité des vulnérabilités similaires. Alors quand on parle d'identification d'acteurs d'origine, on n'a aucune preuve. On ne sait pas qui est réellement derrière. Mais on se rend compte que parmi les TTPs, bah ça ressemble à de l'APT28, du Winter Vivern ou du Tac70. Faut vraiment que j'enregistre un jingle. Faut patcher. Blipping Computer nous apprend que Microsoft a récemment adopté une approche avancée de la cybersécurité en utilisant des tenants fictifs Azure pour tromper les cybercriminels dans des cadres d'attaques de phishing. Cette stratégie repose sur l'implémentation de Honeypot à haute interaction, conçu pour ressembler à des véritables environnements en cloud. Bon, là il y a le côté publicitaire du truc de l'article. La méthode elle a été détaillée par Ross Bevington, ingénieur principal en sécurité chez Microsoft, et a été présentée lors de la conférence B-Side Exeter. Contrairement aux Honeypot traditionnels qui attendent que les attaquants découvrent le système piégé, Microsoft adopte une démarche proactive. L'équipe de Bevington cible directement des sites de phishing identifiés par Microsoft Defender, y introduisant des informations d'identification issues des faux tenants Azure. Ces comptes configurés sans protection par authentification multifacteur sont conçus pour paraître vulnérables afin d'inciter les attaquants à s'y introduire. Chaque tenant est équipé de noms de domaine personnalisés, des milliers de comptes utilisateurs et simule une activité interne réaliste. Waouh! Microsoft a découvert en 2024 comment on faisait pour suivre un fraudeur qui fait du phishing. Soyons bienveillants. Une fois que les cybercriminels se connectent dans ces environnements fictifs, Microsoft active une journalisation détaillée qui suit minutieusement leurs actions. Je vous ai mis cet article que je partage avec vous. Faut savoir que les gens qui luttent contre le phishing, quel que soit leur type d'organisation, font ça déjà depuis 15 ans. Bravo, rien à dire. Bon, alors il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, c'est une approche qui est pas innovante. Je suis désolé, malgré que l'article met en avant ce genre de choses. On est surtout sur le fait que suivre à la trace des cybercriminels, donc ce sont des gens qui sont recherchés généralement, qui ne sont pas dans la loi. Si vous êtes une entreprise privée, c'est pas une bonne idée. C'est pas à vous de faire l'enquête. On dépose plainte et on laisse faire la police ou la gendarmerie pour le cas quand on est en France. Et si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, vous demandez ça à la police montée, pour nos chers amis du Québec. Mais là, faut arrêter, quoi. Mais j'ai vu quand même l'article, c'est intéressant. On voit que ils ont un peu de retard à l'allumage, les garçons. Je vous propose maintenant de faire un focus sur le réseau Tor, The Onion Router. Développé à l'origine par le laboratoire de recherche de la marine américaine, au début des années 2000, est géré depuis 2006 par l'organisation à but non lucratif de Tor Project. C'est devenu vraiment un outil clé pour l'anonymisation du trafic Internet. Le principal objectif de Tor est de fournir une méthode gratuite permettant de dissimuler l'origine des communications en ligne en utilisant un système de routage multinévaux, où le trafic est chiffré et acheminé vers plusieurs serveurs appelés nœuds. C'était juste pour un rappel du fonctionnement. On est vraiment sur ce qu'on appelle un principe de routage en oignon, d'où son nom, où chaque connexion passe par trois nœuds sélectionnés aléatoirement. Le chiffrement est appliqué à chaque couche, comme les couches d'un oignon, et seul le serveur de sortie, l'exit node, voit la destination finale, masquant ainsi l'adresse IP de l'utilisateur d'origine. Jusque-là, on est sur du classique. On est bien entendu sur un trafic chiffré à l'intérieur du réseau Tor, mais il est important de noter que les données non chiffrées en amont peuvent être interceptées au niveau du serveur de sortie. Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer que les sites visités utilisent des protocoles sécurisés, donc bien du HTTPS ou à minima, pour éviter la fuite d'informations sensibles lors de leur sortie du réseau. Pour accéder à Tor, bien entendu, il faut un navigateur spécifique comme le navigateur Tor dérivé de Mozilla Firefox. Alors Tor, c'est quoi au niveau de l'infrastructure? C'est pour ça que j'ai fait un peu le focus. Il n'y a que 6500 serveurs répartis dans le monde entier. C'est opéré par des particuliers, des entreprises, des organisations. Et dans ces organisations, il y a des organisations gouvernementales, il y a des agences de renseignement. Et grâce à cette communauté diversifiée, il y a quand même certains risques qui ont été identifiés. La vraie difficulté dans le réseau Tor, c'est pas les réseaux en entrée ni au milieu. Ce sont ceux qui sont en sortie, qui sont configurés pour faire de la sortie. De plus en plus, des entités sophistiquées telles que des agences de renseignement peuvent potentiellement retracer les utilisateurs Tor en analysant des modèles de trafic ou en compromettant certains nœuds. Mais malgré toutes ces vulnérabilités, c'était ce point que je voulais mettre en avant, Tor reste l'un des moyens les plus sûrs pour préserver l'anonymat en ligne, en utilisé quotidiennement par environ 2 millions de personnes à travers le monde. L'article est sympa, c'est The Record qui le fait. On apprend juste, c'est la volumétrie des serveurs. C'est pas beaucoup, 6500 serveurs pour toute la planète. Passons à un sujet beaucoup plus sérieux. La crise du burn-out dans la cybersécurité atteint des sommets et les CISO sont de plus en plus nombreux à envisager de quitter leur poste en raison du stress accru, des menaces complexes et la pression de l'organisation. Une étude récente menée par Black Fog révèle que 93%, 93, vous vous rendez compte, sur 10 personnes, il n'y en a plus 9 qui pensent à démissionner, évoquant des exigences professionnelles démesurées, des problèmes de santé mentale. Une étude publiée par Sysantis sur le rôle de CISO, qui a considérablement évolué au fil des années. Moi, je me rappelle, il y a encore une quinzaine d'années, un CISO, c'était quelqu'un qui était en fin de carrière. Et quand on voulait le faire, lui laisser, comment dirais-je, partir en étant pas trop stressé, on le mettait CISO. C'était hyper cool. Il faisait une politique de sécurité, il faisait des études que tout le monde s'en foutait, à vrai dire, mais royalement, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. Faut être péchu, comme on dit. Et vu qu'ils sont confrontés à des menaces de plus en plus sophistiquées, telles que des attaques alimentées par l'IA, des ransomware, que la sécurité des données n'a jamais été aussi critique, avec la pression des régulateurs, ainsi que les amendes qui peuvent tomber pour les entreprises, ça impose une charge de travail assez importante, avec 98% des CISO qui travaillent au-delà de leurs heures contractuelles. En moyenne, un CISO ajoute environ 9 heures de travail par semaine, certains allant jusqu'à 16 heures supplémentaires. Bah, ouais, c'est la réalité, mais est-ce que c'est pour ça qu'il y a aussi une rémunération qui est donnée, qui n'est pas forcément... Je connais pas beaucoup de CISO au SMIC quand même, hein. Cette surcharge contribue fortement à l'épuisement professionnel et 25% des CISO envisagent de quitter leur... Alors voilà, on passe à 25%. Au début, on était 93% dans Black Fog, ils pensaient démissionner. Mais quand on commence à leur dire « Est-ce que vous voulez vraiment démissionner ?», on descend à 25% à cause d'un stress insupportable. Ce phénomène accroît les vulnérabilités des entreprises car la rotation élevée des talents compromet la continuité de la sécurité. Parmi les principales préoccupations, 42% des CISO s'inquiètent des attaques pilotées par l'IA, qui utilisent des algorithmes avancés pour contrôler les mesures de sécurité traditionnelles. Rendant ces attaques plus difficiles à détecter et neutraliser, le ransomware reste un facteur de stress majeur mentionné par 37% des CISO. Ces attaques combinent le chiffrement des données avec leur exfiltration, forçant les organisations à se défendre sur plusieurs fronts. Mais là, on s'éloigne un petit peu du burn-out. Le burn-out ne se limite pas à une baisse de productivité. Il y a aussi des conséquences graves sur la santé mentale des CISO et des équipes de cybersécurité. C'est là que l'étude qui est remontée, quand on l'a lu, je l'ai lu dans le détail, ils confondent le CISO, l'équipe de réponse à incident, si on prend dans ces cas-là la blue team, la red team, ils confondent tous les RSI, les responsables de sécurité informatique. Mais on est vraiment sur un cas qui fait très très peur sur un plan humain, parce que selon l'étude, il y a quand même 45%, donc on va dire une personne pratiquement sur deux, qui admettent avoir recours à des substances comme les drogues ou l'alcool pour faire face au stress. Tandis que 69% se sont retirés des activités sociales. Et ça, c'est quelque chose que je vois à travers les réunions dans les équipes de réponse à incidents à travers le monde. Il y a beaucoup de monde qui est sorti de leur milieu professionnel, de leur passion, parce que c'est une passion ce métier. Bah, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins qui vont faire du sport. Alors le sport, ça tient encore, ça marche plutôt bien. Mais par contre, oui, le reste, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a quand même 86% des répondants qui font du sport, c'est ce que je vous disais. Beaucoup peinent à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La pression émotionnelle est immense, car ces professionnels doivent protéger leur organisation face à des cybermenaces croissantes, tout en faisant face à un manque de ressources et de soutien. C'est peut-être ça le fond du sujet. Pourquoi on va être en stress? Bah, quand vous avez les moyens, que vous êtes dans une entreprise qui dispose de ressources et vous avez les compétences en interne, ou même avec des sous-traitants, ça se passe plutôt bien. Vous allez avoir une gestion de crise, vous allez avoir un petit peu de fatigue, ça va le faire. Maintenant, comme c'est le cas dans certaines, ce qu'on appelle certains rétex par des CISO américains, quand vous voyez qu'un CISO d'un hôpital avait 15 000 dollars de budget annuel pour défendre un hôpital, il va avoir un ransomware, l'hôpital va se retourner contre lui et il va gagner en procès parce que quand il dit, mais moi, on m'a donné que 15 000 dollars pour protéger, c'était son budget de sécurité pour tout l'hôpital. Il y avait plusieurs milliers de postes. Donc, pour surmonter ces crises et retenir les talents, c'est pas trop là-dessus que je me suis appuyé. C'est plutôt que les entreprises doivent vraiment repenser leur approche sur la gestion de la cybersécurité. Offrir des horaires de travail flexibles, des options de télétravail. Comme je vous avais montré dans l'étude des CISO au début du mois, il y a encore beaucoup de CISO qui sont en présentiel à plein temps. Et quand on fait du présentiel, on a des journées qui font 12-13 heures de façon régulière et que le samedi et le dimanche vous êtes sollicité, c'est dur au bout d'un moment. Et il faut vraiment favoriser une planification stratégique de la sécurité à long terme. Alors ça, c'est le bullshitomètre que j'ai vu dans l'annonce. Voilà, je voulais partager avec vous cette annonce pour plusieurs raisons, mais surtout la première. Si vous voulez que vos équipes de réponse à incidents ainsi que votre CISO tiennent sur la durée, il n'y a pas de miracle. Il faut qu'il ait des ressources, il faut qu'il ait un petit peu de moyens. On peut pas demander évidemment des budgets pharaoniques, suivant les entreprises, mais vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire 12-13 heures par jour pendant des mois, lui imposer la pression d'une cyberattaque, car il faut pas l'oublier, une cyberattaque, pour la majorité des TPE, PME, c'est la fin de la boîte. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui s'en sortent, ça laisse des traces. Donc si vous êtes dans un grand groupe, généralement, vous allez avoir un petit peu d'aide, vous avez une DSI, il y a quand même du monde, vous allez embarquer ce genre de choses. Ça laissera aussi des traces. Donc il faut vraiment prendre soin. Quand on te dit prendre soin de vous, c'est pas juste « Oh, ça, on t'a mis une machine à café et t'as un nouveau siège ergonomique ». Non, c'est faire attention que les équipes ne travaillent pas 70-80 heures. Il y a certaines équipes de réponse à incidents que je vois à travers le monde, c'est des furieux les gars, ils sont entre 70 et 80 heures par semaine. Alors, vous aimez bien, ils sont jeunes. Non, ils sont pas que jeunes, c'est qu'ils ont juste la passion, mais à côté, il n'y a pas de vie. Et si vous voulez avoir des analystes, ça c'est mon retour d'expérience que je partage vraiment avec vous, un analyste qui est brillant, qui est bon, c'est quelqu'un qui a une vie sociale. Le gars qui vit dans sa cave et qui fait la recompilation de kernel Linux tous les week-ends, oui, vous faites ça, vous avez 20 ans, quoi. S'il continue à faire ça à 40 ans, faut le piquer, le garçon. Et voilà pour ce podcast de Radio Sesseur du lundi 21 octobre 2024 qui touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il est pas du tout construit. Je l'ai fait en mode arrache. Pour la simple raison, je suis retourné à l'hôpital et c'est un enregistrement que je fais de l'hôpital. Donc, ils ont halluciné. Je suis venu avec la table de mixage dans la chambre et tout, etc. Ils m'ont dit, vous préparez quoi? J'ai juste un petit épisode à faire. Mais en théorie, je sors ce soir. Si tout se passe bien, je vais passer au blog dans 3 heures. Et je ressors ce soir. Et demain, il y aura un épisode ou pas. Ça serait la surprise. Il sera construit, c'est promis. Je regarderai tout. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Moi, je vais aller me préparer. Au revoir.